Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. La radio, c'est vous, la radio, c'est nous, médias de l'instantanéité et de proximité. La radio est présente dans notre vie quotidienne. Nous l'avons adoptée à travers ses rôles primordiaux dans notre quotidien. Elle nous permet de nous informer, de nous former ou éduquer, sans oublier son apport de divertissement dans le processus alors de notre développement personnel. Média chaud et dynamique, la radio est-elle, conserve-t-elle aujourd'hui sa place dans la société? Quelles sont les perspectives alors de la radio dans notre société? Nous en parlerons avec nos confrères journalistes en studio avec nous alors à cette date du 13 bien sûr février 2025 où la radio est célébrée dans le monde entier. Bienvenue au club. Nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, bien sûr, selon les journaux évoqués parus ce matin, pour la coordination de l'émission de ce jour. Michel Kokou, Victor Guetomega est à la mise en onde. Gérald Akoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero Radio, La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Ambroise Kwanzo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio-Canal FM. Je salue nos amis techniciens qui sont de l'autre côté, Chérod et Michel. Je voudrais faire ce coup de gueule à l'endroit de la CET, ceux qui nous fournissent le courant électrique. Et je crois qu'il va arriver un moment où la CET va devoir enlever ses poteaux devant les maisons de chacun de nous. Parce que nous avons vécu une situation, surtout dans la journée d'hier, dans la zone à Kato, Segbe, là-bas. Je crois que d'autres quartiers aussi en ont vécu, mais depuis 9h30, je crois, jusqu'à 23h, Tu seul sais ce que les gens ont vécu dans cette chaleur. Tu es au dehors, il y a les moustiques, tu es dedans, il y a la chaleur. Et donc, à la fin du mois, les factures viendront. Vous allez payer les factures. Et quelles factures? Les factures sont actuellement d'obédience élevée. Le coût de facturation est devenu, je ne sais pas, entretien compteur, redevance, tout, il y a des choses qui se grèvent sur ta consommation personnelle et tu ne te retrouves pas. Je n'ai rien contre ceux qui dirigent la société. Mais je crois que c'est tout le gouvernement qui a démissionné. C'est une démission du gouvernement parce que un pays de 8 millions d'habitants où on est un peu riche dans ce pays, on ne peut pas fournit l'énergie. L'énergie qui est la clé de voûte ou l'élément moteur de la croissance, du développement d'un pays. 8 millions d'habitants, on ne peut pas nous fournir. Les gens sont à 250 millions d'habitants au Nigeria. Je me demande comment ils font pour s'en sortir. RDC, ils sont à plus de 100 millions d'habitants. Mais nous, on est juste à 8 millions. Et on n'arrive pas à avoir l'électricité. C'est une démission de ceux qui nous gouvernent. Je suis serré parce que c'est pourquoi j'ai commencé en disant ceci. Qu'arrivé à un moment donné, soit la société va venir ramasser ses poteaux et ramasser les cordes, là, les courants et les câbles devant les maisons. Et on sait qu'on retourne aux années 60, on est aux années 50.
Mais Ambroise, c'est que ça n'a pas été toujours le cas. C'est parce qu'il y a un problème et le problème a été annoncé par la suite.
Vous savez, ce qui énerve dans tout ça, je sais que il peut y avoir des problèmes de fioles et autres. On avait de gaz naturel, on en avait parlé. Et problème du Nigeria, j'ai lu un communiqué hier, j'ai senti le Nigeria dedans. On nous avait parlé du gazoduc aussi, que la WAPCO devait entretenir tout ça là. Mais que la distribution soit faite de façon égalitaire.
D'accord.
Vous allez voir, il y a certains quartiers qui ne sont jamais coupés. Moi, quand je descends de Wanyamia, il y a toujours la lumière là-bas. J'ai l'impression que c'est parce que nous sommes au niveau de la frontière. Il y a d'autres, il y a une dame qui se plaint. Parce que toutes ces personnes sont pourries. Je le dis avec colère, parce que ce n'est pas évident que vous quittiez votre maison sans lumière et vous revenez à la maison sans la lumière. C'est
d'accord, ça se comprend.
C'est
une situation difficile justement pour les populations. C'est vrai, c'est une situation très difficile alors pour les populations et je pense quand même que tout doit être fait pour que la situation revienne à la norme. Et Michel Yaoutsadza, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Ambrose, bonjour Aylon.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça peut aller.
Dieu merci et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
Et l'homme Kossi Atisobi, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Ambroise. Bonjour aux techniciens. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste dire un mot sur l'électricité aussi. Comme Ambroise l'a dit, les coupures, c'est vrai, on ne peut pas s'en passer. On peut avoir une interruption dans la fourniture du courant électrique. Personne ne peut prévoir une panne, etc. Mais comme Ambroise l'a dit, je pense aussi qu'il y a une inégalité dans la fourniture parce que moi, par exemple, hier, en partant de la maison, on avait coupé à 7h. De 7h à 15h, il n'y avait pas le courant. On a remis le courant à 15h. Entre 15h et 16h, on a coupé 3 fois avant qu'on ait le courant entre 16h jusqu'à la tombée de la nuit. Mais pendant ce temps, au niveau de Ségbé, à Kato en allant, ils sont restés dans l'obscurité après la coupure du matin, ils sont restés dans l'obscurité à partir de 18h jusqu'à ce matin, il n'y a pas de courant.
Ça, c'est... Alors qu'ils l'ont remis seulement à 23h.
Oui, mais c'est pas, franchement, il y a un problème. Il y a sincèrement un problème.
C'est comme s'il n'y a pas de gens là-bas, quoi.
Oui, mais oui, en base, vous l'avez dit, oui, Michel, vous voulez ajouter quelque chose rapidement.
Oui, je pense que à l'impossible, nous n'est tenu. Tu l'as dit tantôt, la CT s'est expliquée en tout cas. Elle a une manière de communiquer ces derniers mois qui n'est pas du tout catholique. Mais bon, parfois vous découvrez des communiqués à des endroits où les gens ne savent même pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit, il y avait une manière de communiquer, je ne sais pas quelle est. Cette nouvelle poursuite dans laquelle se trouve donc cette institution, et elle communique mal. Ces derniers temps, elle communique très 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 mal, j'allais dire. Maintenant, je pense que elle a fait comprendre que nous avons sur notre site publié entre temps, en tout cas traité le communiqué qu'elle a sorti pour dire qu'il y a des difficultés. C'est vrai. S'il y a des difficultés, je pense que la CET a le devoir de savoir rationaliser la fourniture donc de l'énergie. Comme les confrères l'ont dit hier, nous on a failli ne pas travailler hier. J'étais là, je dormais pratiquement au lieu de boucler, j'étais là comme ça. Ils ont coupé le matin jusqu'à 16h, il n'y avait rien. Et à 16h, ils ont remis. Et on était en train de nous presser parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Juste quand il fallait tirer les calques, ils ont encore coupé. Vous voyez notre amertume. Donc nous étions là-bas, nous étions restés là-bas jusqu'à au-delà de 20h, 21h par là. Ils ont donné et nous nous sommes précipités pour tirer les calques. Je ne sais pas, ils ont encore coupé à quel moment encore. Mais c'est de dire tout simplement que si c'est vrai, la CET a des difficultés. S'il y a des problèmes, il faut les régler, mais dans la fourniture, il faut rationaliser. Il faut quand même qu'on sente que tel quartier-là, de 7h à 12h, les ménages, sont fichés. Je ne sais pas quoi, tout le monde sait ce qu'il faut faire.
Et on prendrait des discussions.
Ce sevrage anarchique, brusque, et choses-là, vraiment, ça devient. Bon, moi, je ne vais pas jusque-là dire qu'on prélude certains, mais ça dit. Je voulais observer quand même qu'on puisse rationaliser cela. Tel quartier peut bénéficier de l'énergie de tel heure et vous prenez vos dispositions. À tel moment, c'est que c'est tel quartier. À tel moment, c'est que vous allez, ça va revenir chez vous. Mais quand c'est vraiment anarchique, d'une manière, parfois on coupe 5 minutes, après ils remettent et c'est parti pour, c'est pas 10 heures du temps comme ça. Mais ça fait vraiment mal.
D'accord. Ok, merci beaucoup, cher confrère. Je pense que c'est une situation que les populations décrivent tous ensemble. C'est justement, tout le monde vit cela actuellement. Et quoi de plus normal quand même que vous évoquiez le sujet. C'est pour cela même d'ailleurs que je vous ai laissé parler du sujet déjà tout au début alors de cette émission.
Parce que ça
émission.
fait mal.
Ça fait mal, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça fait mal. Et on attend et on demande justement alors que... mais c'est parce qu'il y a d'autres sujets également. Nous avons d'autres sujets. On a pris le temps nécessaire, pratiquement 12 minutes.
Si je n'ai pas le courage, je peux revenir ici.
Oui, pour débattre
du sujet. Pour débattre alors du sujet, ça c'est très important. C'est la CET, c'est le courage.
Mais oui, justement, mais on ne prendra quand même pas tout le temps pour faire l'émission. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, oui, j'évoquais vraiment ce sujet également dans mes mots introductifs. Alors, aujourd'hui, c'est le 13 février. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. On en parle, bien sûr, la radio, puisque nous sommes en train de parler même d'ailleurs sur une onde et une antenne. Et l'homme, je ne sais pas si on vous a une fois dit quand même que vous avez une belle voix pour faire la radio.
Il le fait.
Ouais, j'ai fait la radio. J'ai débuté ma carrière à Radio Carré Jeune.
Oui.
Ensuite, j'ai fait Radio Zéphyr. J'ai fait Fréquence 1 d'abord. Fréquence, ensuite Radio Zéphyr. Radio Zéphyr. Et puis après, bon, je suis rentré dans la presse écrite. Oui, bon, je pense que la radio, c'est une passion. C'est vraiment une passion. C'est harassant, il faut le dire, parce que tout le temps, tu as les écouteurs dans les oreilles. Tu veux suivre ce qui se fait à l'antenne. Tu cours d'après les informations, les dépêches qui tombent tout le temps. C'est harassant. Mais c'est quand même une belle passion, la radio. Il y a beaucoup qui viennent pour découvrir peut-être le journaliste qui parle à 11h à Canal FM, parce qu'ils n'ont pas véritablement l'occasion de le voir. C'est pas la télé, c'est la radio. Et donc, peut-être la voix. Un jour, on va vous dire que, ben, écoute, c'est comme si j'écoute cette voix à la radio. Non, c'est tant. On va dire oui, que c'est lui. On va dire, ah, c'est bien, félicitations. De toutes les façons, c'est ce qu'on appelle la magie des ondes. Et je crois que c'est une journée qui est quand même à célébrer pour toutes ces personnes qui sont des journalistes, des confrères qui travaillent sur des radios.
D'accord. Je sais qu'Ambroise a longtemps fait aussi la radio avant de se convertir dans la presse écrite. Ambroise, vous, déjà, si est-ce que c'est toujours la passion pour la radio? Et aussi, moi, je voudrais savoir, est-ce que la radio aujourd'hui conserve toujours sa place?
Oui, d'abord, je dois dire que la radio, c'est une passion. Et la radio en elle-même, c'est un miracle. Parce que,
je me rappelle. Donc, on parle de la magie.
Juste ça. Il y a des gens qui parlent de la magie. Moi, je pense que c'est un miracle parce que, dans un champ quelque part à Yvé, chez mon ami Sintové, champ de maïs ou de manioc, vous avez le petit transistor là. Et par miracle, quelqu'un parle depuis Lomé, depuis la Chine.
Non, on l'écoute.
C'est un miracle. C'est une magie. Ça, c'est le premier point. Et donc, il est important de la célébrer, la radio. La radio, c'est une passion. Et d'abord, c'est la voix. Ce que tu as posé comme question en premier, c'est effectivement la voix. Si tu as le niveau de la classe de première, même de seconde, tu peux faire la radio. Parce qu'on parle de niveau première, de base, tout simplement parce que tu dois savoir les syntaxes, l'écriture, la grammaire, l'orthographe, comment on agence la conjonction de coordination, comment les femmes... Comment la phrase commence, comment ça termine? Tu dois savoir à peu près comment on peut aligner certaines phrases pour que ça soit bien audible et répondant à un français un peu soutenu à l'oreille des gens. C'est vrai, nous parlons souvent le français courant, pas du charabia ivoirien ou du charabia, et comment on dit ça. Mais le Togolais n'a pas trop l'habitude de parler le français soutenu, le français de rue. On est dans la tendance français soutenu au point qu'on n'arrive même pas à s'exprimer en français. Et ça, pour moi, c'est bien. Il faut s'accrocher à notre langue maternelle. Mais dans la radio, vous savez, nous on est entré en radio, effectivement, l'homme l'a dit, pas passion. Ah, j'adore la radio. Et je me rappelle de ceux avec qui on a commencé depuis les années 97, 98, jusqu'à... On a aussi eu la chance de devenir chef, et au moins plusieurs fois, sur certaines radios. Et je me suis dit que, bon, la presse écrite, en étant dans la radio, j'écrivais déjà dans la presse écrite. Avec les journaux Liberté Alternative dans les années 2005 et au-delà. Et donc, je me dis, j'ai eu la chance de passer sur plusieurs radios. Et même la télévision d'État, j'ai eu la chance de travailler là-bas. Et donc, je me suis dit, j'ai eu quand même une expérience, pas une petite, une marge d'expérience. Et nous avons aussi formé certains. Hein. Il y avait notre joint, il y avait les Yaoudogan. Hein. C'est les voix de la radio, Léana, oui. Le papa d'Anna Théabé. Et le papa de Jocelyn, Radio Nostalgie.
Nostalgie, voilà.
Anna Théabé, il est vivant, hein, il est là. Il y a Sanda Basanda, il y avait Tchotchoko Bonfo. Même jusqu'à Africa numéro 1, nous écoutons là-bas pour avoir une certaine référence. Les Isaac Makanga, les Edgar Djemilu Gaga, il y avait des noms. Africa aussi a disparu. Et il y avait sur RFI, il y avait un de nos chefs aussi, Jean Karifa, il est décédé. Jean Karifa, il était le directeur chef du RFI.
Le RFI, justement.
Il est franco-sénégalais, il a été un de mes chefs aussi.
Il est là, mais il est à la retraite, c'est tout.
Non, Jean Karifa, il est décédé.
Non, c'est Assane Diop qui est à la retraite.
Diop, oui. Il est là.
À la retraite, oui.
Karifa aussi, il est de nationalité un peu français, sénégalo-libanais aussi. Et donc, lui, il a été un de mes chefs aussi. L'Étienne de Dieu aussi, nous a formés. Et Zora Soti, Sophie Ekoué, ça, c'est nos chefs. Et donc, tout ce monde-là, c'est la radio. Il y avait une voix sur RFI aussi qui nous avait beaucoup inspirés. Il est décédé aussi. On disait qu'il n'avait pas même le niveau bac.
Mais Laurent Sadou.
Il était le meilleur présentateur, tout simplement.
Afrique Midi, parce que
la voix est le premier. La voix doit faire 60% de ta qualité et le reste, on en verra.
Tout à fait.
Donc, nous, on a sillonné plusieurs radios à Lomé, on était très contents. Et donc, nous sommes tombés dans la presse écrite aussi. Pas passion et combat dans la presse écrite. Et donc, ce combat-là, on le faisait déjà, on était à la radio. Mais la radio, on était strictement neutre à la radio. Parce que la radio, ce qui est intéressant à la radio, c'est que vous avez le journal. Non, le présentateur, en tant que rédacteur en chef, je suis aussi présentateur. Et vous vous levez déjà à 4h du matin, il pleut. Mois d'avril, mai, il pleut abondamment. Et on n'avait pas. Tu prends un Zemidjan, si un Zemidjan accepte, il te prend depuis à Idogome pour arriver à la radio. Vous voyez ça? Et on est tout mouillé jusqu'au couille, jusqu'au slip.
Puisqu'on doit servir.
Michel est témoin.
On doit servir.
J'ai reçu Michel. Il se rappelle, en 2008, je crois, sur Victoire FM, et on est mouillé. Mais à 7h, tu dois être à l'heure pour l'auditoire.
Puisque c'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous. Le journal ne doit pas attendre, l'auditoire ne doit pas attendre le journal. À l'heure là, tu as beau faire quoi que ce soit sur le chemin, tu dois être là pour présenter ton journal. Et donc, il y avait quand même des règles, des règles de base qu'on devait savoir sur la radio. Je me rappelle du grand frère Pita, il y avait aussi Pierrot, eux ils étaient à Nostalgie.
En ce moment.
Noël, Faustin. Donc, nous on était déjà. Ils avaient commencé avant nous, mais on était ceux qui les suivaient en ce moment-là. Et on a cheminé ensemble avec les Lys Damien, les Franck Nyama, les David Assimadia, Mekoudi, Junior Kapo Aivi et Eugène Bamazé. Donc, on a sillonné un peu. La radio, je dis, c'est une magie, c'est un miracle.
D'accord.
Et c'est pourquoi. Et ça nous a appris aussi le verbe facile.
Tout à fait.
C'est vrai qu'on a, été aussi plusieurs fois major, mais ça nous a appris à avoir. Tu sais quand même que tu es devant toi des milliers de personnes à qui tu parles. Et la différence entre la radio et la télé. C'est l'image au niveau de la télé. À la radio, tu peux tout faire. Et dans la radio, son caractère miraculeux, c'est que tu parles à des millions de personnes sans le savoir. Et donc, n'ose pas faire quand même des erreurs. Et un journaliste ne doit pas improviser, en fait. L'improvisation, c'est que tu as tout préparé sur papier.
Et sans que la
même les émissions que nous faisons.
C'est ce qui est écrit.
Oui. Même les émissions que nous faisons, je vais terminer. Je me rappelle d'une émission que je faisais sur Radio Carré Jeune en 99, 2000-2001. Et qui m'avait valu le nom de Alain Foucault en ce temps-là. Parce que je faisais une émission où je souffrais je présentais la carte des pays, de tous les pays. Et il y avait un professeur d'université qui me confondait à Alain Foucault. Il était dans le quartier. Il était venu. Parce que j'imitais, effectivement, Alain Foucault, c'était aussi une référence pour moi, même si aujourd'hui, là, il a, vous voyez ça.
Et donc, non, on ne voit rien.
Et donc, disons que la radio, on a aussi fait un peu d'expérience dedans.
D'accord.
Et ça me rappelle aussi Gilles Bocor et Carlos.
Oui.
Et on a fait ensemble, c'est bien.
D'accord. Oui, mais j'ai posé une question à Ambroise et Michel. Est-ce que la radio conserve sa place aujourd'hui ou bien à un moment donné, il y a une évolution et que finalement la radio doit s'adapter à cette évolution?
Non, la radio résiste. La radio, malgré tout ce qui se fait aujourd'hui par rapport au numérique et tout, la radio a sa place. J'allais dire qu'il faut magnifier la radio encore davantage. Parce que, vous savez, moi... j'avais confisqué la radio de mon grand-père quand j'étais au CEM pour suivre les informations. Et il me posait la question, qu'est-ce que j'écoute là-bas? Je sais quoi de ce que j'écoute là? Est-ce que je sais quelque chose? J'étais au CEM. Et justement, c'est au CEM que j'avais fait la rédaction. Je disais que je devais être journaliste parce qu'on nous demandait de dire ce qu'on devait être. Quand on sera grand, j'ai dit, dans ma rédaction, j'ai dit que le métier que j'aime, c'est, je voulais être journaliste. Et mon maître de CEM, il est encore là. Il a souri, m'a regardé, mais il a été surpris des années après de savoir que je suis journaliste. Et ça lui fait chaud au cœur. Chaque fois que je vais au Nord, je le vois. Il est très heureux de me retrouver comme ça. Et moi, je faisais les essais de voir Radio Cara en 92. Bon, heureusement que les études m'ont emporté, j'ai eu le bac, je suis revenu ici. Pour vous dire tout simplement que j'étais vraiment accroché à la radio. Je voulais savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et Ambra le disait tantôt, la première fois qu'on m'a reçu dans l'émission Audio Actu sur la radio...
Victor FM,
c'est Ambroise Pogno qui m'a reçu.
C'est le créateur de Victor
Actu. C'est lui qui m'a reçu, il y a de cela des années. Bon... C'est ça, la radio, c'est un média qui résiste malgré les innovations, malgré la technologie. C'est une radio qui est encore... Je pense que tu l'as posé la question par rapport à la journée mondiale.
Tout à fait.
Donc, la radio a encore sa place. Et je suis heureux de constater que vous le faites si bien, vous continuez, malgré les difficultés que vous rencontrez au quotidien, vous faites ce que vous pouvez pour donner l'information, la bonne information aux auditeurs.
Merci, c'est concret. Oui,
tu permets, il a dit quelque chose, il est remonté dans son enfance. Effectivement, ce qui l'a amené à embrasser et à aimer la radio. Et comme il a dit, moi j'étais à Sokodé, j'étais au CM1, et papa avait une radio... Une radio que les voleurs ont fini par voler dans les années 90. La radio avait une antenne qui peut aller jusqu'à 2 mètres.
Ah bon? C'est quelle radio?
La radio captait, je ne sais pas là où le vieux a trouvé cette radio. La radio captait, il capte tous les pays du monde. Jusqu'en Taïwan, toutes les radios. Et c'est sur cette radio-là que les voleurs ont choisi de venir voler sur nous quand on était à Idogomé. Et donc, moi je lui disais, quand j'écoutais le journal de Radio Lomé, je disais à papa que ça va trop vite. Il dit, mais... Tu t'intéresses à ça? Il se rend compte que chaque fois, à midi, je suis souvent à la radio.
À la radio.
Même on était à l'école. Bon, les camarades qui m'écoutent actuellement, on a fait ensemble qu'on n'a pas essayé. Donc, il disait, toi, tu dois devenir journaliste. Donc, je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai prévu devenir peut-être un joueur ou quelque chose comme ça. Mais, par la force des choses, en 6e, 5e, tout le monde disait que ouais, journaliste, toi tu dois devenir journaliste. Bon, moi c'est et je dois tirer chapeau à ce monsieur là. C'est vrai qu'on a comment on était à Galaxy tout ça là, mais Junior Capo à Ivy, et qui il m'avait invité un jour sur Radio Carré Jeune en 99 je crois 2000, et il faisait le sport, et quand j'ai fini en tant qu'invité, je suis pratiquement devenu journaliste en tant qu'invité. Et donc, c'est vrai que je sillonnais, on faisait des petits poèmes, tout ça là, mais je lui rends grâce parce que c'est lui qui m'a invité, qui m'a dit, mais Bélassion, tu as une voix, Et on a commencé comme ça ensemble avec les Francs, Nouyama et les David et les Eugène. Et à tout moment, on venait quand même sur chez Nostalgie dans les années 97. Et avec les Jocelyn, les Pierrot, les Pita, Dobé, tout ça là. On aimait la radio. Donc, c'est une question d'enfance. Il y en a qui l'ont embrassé, c'est vrai, parce qu'ils ont été à l'école. Les Laurence Adou, je crois que c'est la passion qui les a amenés.
Tout à fait.
Les gens Hélène aussi.
Oui.
Étant militaire, mais en même temps, journaliste, il a pris le côté radio, a pris l'ascendance sur son métier même. Beaucoup ne savaient pas qu'il est militaire. Et donc, on a gloire à la radio. Et la radio doit résister. Les gens ont déjà décrété la mort de la presse papier. Mais la radio, je crois, ne mourra jamais, même s'il y a le numérique. La radio, telle qu'on on la vit aujourd'hui, ne va jamais mourir.
La radio, rendons gloire à la radio, telle que vous l'avez dit, et également rendons gloire à tous ces personnalités, à tous ces gens-là qui ont fait la radio et qui ont toujours aimé la radio et qui nous ont inspirés à rentrer également dans
les métiers, justement,
effectivement, sur une FM, bien sûr. Radio de l'Évangile d'abord, et
après, sur une FM. Qui ensemble,
Nikon Akwe. Tout à fait. C'est des grands
moments. En tout cas, c'est eux, Eric Salah. On était ensemble à la radio Métropolis, il est décédé.
Tout à fait. Et
à son âme, on ne va pas citer tout le monde.
Justement, on ne va pas
citer. Mais c'est des gens qui étaient passionnés quand même.
Voilà.
De la radio.
Ça se sentait dans leur manière de faire la radio.
Absolument.
Merci beaucoup, chers confrères. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. L'homme, c'est vous qui nous donnez notre second sujet à discuter. Alors, ce matin, vous écrivez Togo, atteinte à l'environnement et à la santé publique. Golden Harvest, source de pollution, risque de maladie. Et vous écrivez par la suite, les ministres Gbagbeni et Tindaré appelés à la rescousse et l'ange attendu sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Pascal, il y a quand même des choses qui se passent, surtout à l'intérieur du pays où nos terres sont bradées à des étrangers. Vous allez voir sur la nationale numéro 1, à quelques encablures de cette voie stratégique, vous allez voir des gens, des étrangers qui prennent des hectares, qui mettent en place des choses, des champs, des fermes agro-pastorales, etc., des centres d'élevage. Mais ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'on a été alerté du fait qu'il y a une ferme avicole à Gamé-Séva, non loin de la nationale numéro 1 là-bas, sur plusieurs hectares dans le Giob, sur plusieurs hectares avec clôturé. Et une ferme qui appartient à un étranger, une société qui s'appelle Golden Harvest, et qui à la base dit qu'elle fait dans l'élevage de poulets destinés à l'abattage pour exportation. On a eu plusieurs témoignages du fait que non seulement la société s'est installée sans étude d'impact environnemental pour pouvoir véritablement évaluer le projet au niveau de l'ANGE, qui est l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement, pour voir dans quelle mesure ils peuvent préserver l'environnement en faisant leurs activités, mais aussi le lieu ressemble à une forteresse. Personne ne rentre. Dès que vous approchez à 50, 25 mètres, la sécurité même vient vous demander où est-ce que vous allez. Et les populations se plaignent du fait que non seulement la zone est actuellement infectée envahie de mouches, et quand les volailles meurent, par exemple, on les jette par des subords, c'est-à-dire que on les envoie dans l'espace, dans les champs des autres, etc. Ce qui quand même génère plusieurs insectes et qui affecte ou dérange la qualité de la vie dans la zone. Et nous n'avons réussi lors de notre enquête à interroger personne au niveau de cette société parce que le patron de la structure est un Indien et il n'est jamais là, il est inaccessible. Mais c'est une société qui aujourd'hui exerce dans un milieu qui est quand même problématique. Tenez-vous bien, même l'eau aujourd'hui que les populations disent utiliser, c'est de l'eau qui est aujourd'hui contaminée par des déchets qui sont versés dans la nature par la société en question. Et c'est quand même curieux de constater que pour une société qui s'installe comme ça, et il y en a plein déjà à l'intérieur du pays, où des fermes avicoles, où des gens n'ont pas les autorisations qu'il faut, les gens s'installent n'importe comment, et mieux, ce qui se passe, selon les informations que nous avons recueillies sur place, il semblerait que les volailles qui sont jetées par-dessus la clôture au niveau de cette ferme avicole, c'est des volailles qui sont après récupérées par les bonnes dames, qui sont traitées et revendues au bord de la route, là-bas, par des bonnes dames, ce que les gens ne savent pas. Et donc, ça, c'est des informations que nous avons recueillies sur place. Donc, nous invitons, et notre papier aujourd'hui, c'est un papier d'alerte. Non seulement c'est une société qui porte atteinte à l'environnement, c'est une société qui n'a pas les autorisations qu'il faut. Je ne parle pas d'autorisation en tant que pour la carte CFE, etc. Je parle d'autorisation environnementale et d'exercice d'activité. De trois, c'est une société qui véritablement se comporte comme une forteresse, c'est-à-dire vous pouvez jamais entrer, vous n'aurez aucune information, vous voyez juste les tôles, vous savez pas ce qu'on fait là-bas. On peut pas vivre sur un territoire comme ça. Et mieux, et on relance aussi le débat sur cette façon de brader les terres aux étrangers. Vous voyez nos terres agricoles, les espaces qu'on a à l'intérieur du pays, on a de plus en plus d'étrangers qui viennent, qui achètent des hectares, on brade des terrains et les gens sont là. Parce qu'on sait que les étrangers ne peuvent pas acheter des terrains chez nous. L'astuce maintenant, c'est que les gens achètent les terrains, les espaces au nom des sociétés. Voilà. Vous allez voir des gens qui disent, ils savent qu'ils peuvent pas acheter en leur nom propre parce qu'ils sont des étrangers. Ils créent une structure bizarre et ils achètent des hectares au nom de la société. Mais ça aussi, il faut que le cadastre et les autorités compétentes puissent ouvrir les yeux afin de déceler ces anomalies. Et plus tard, on vous dit que oui, la société, ah voilà, on a quand même un hectare qui est rentré dans le champ de l'autre, alors que des gens des titres foncés sur ces espaces. Il y a quelque chose de très grave qui se passe à l'intérieur du pays, sur nos terres, sur les parcelles que nous avons. Il faudrait que, non seulement, c'est vrai que le foncier est une bombe à retardement, non seulement dans la capitale, mais à l'intérieur du pays, ce qui se passe est extrêmement grave. Il faudrait que on puisse ouvrir les yeux du côté du cadastre, du côté du ministère de l'Environnement, du côté du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, parce que c'est important ce que je suis en train de dire, dans quelles conditions les gens installent des fermes avicoles. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, des sociétés qui abattent des poulets ou des volailles, on les connaît. Si vous allez au ministère du Commerce, vous avez la liste. Mais cette société ne figure pas dans cette liste-là. Mais elle dit qu'elle fait de l'abattage de poulets. Mais comment on peut fonctionner comme ça?
D'accord.
Mais il faut dépêcher une mission au niveau de l'ANGE. On a interpellé le ministre de l'Élevage pour qu'il puisse se rendre dépêcher une mission sur place pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi des poulets, des volailles qui sont jetés dans la nature là-bas, c'est ce que les bonnes dames ramassent, les traitent et viennent les revendre au bord de la route. Et donc, j'ai suffisamment évoqué de points.
Tout à fait.
Et je crois quand même qu'il faut un sursaut. Parce que même dans la capitale ici, l'astuce maintenant pour les étrangers, c'est d'acheter nos terrains au nom de leur société et non en leur propre, parce que c'est interdit.
D'accord. Oui, mais Ambrose, l'interpellation que l'homme est en train de faire, je pense que c'est fondé. Parce que vous écrivez également à la une de votre journal des Guadians ce matin, Burkina Faso, le titre de propriété sur les terres rurales refusées aux étrangers. Alors,
vous voyez que l'homme et moi, on ne sait même pas, ça fait deux semaines. D'ailleurs, je félicite l'homme pour avoir fait cette enquête-là. Quand quelque chose est bien, il faut le dire, quoi. C'est-à-dire que c'est notre métier, c'est notre façon de le faire pour alerter les autorités. Et je crois qu'ils réagissent des fois positivement. Ça, je le reconnais. Et je sais que ça, là, ils doivent réagir. Vous savez, si vous savez comment les étrangers nous narguent dans ce pays, il y en a qui respectent les Togolais. Mais il y en a aussi qui narguent. Et ce qu'il dit là, c'est extrêmement grave. Pour le cas du Burkina, moi, j'ai vu sur le net, j'ai dit, mais tiens, si ça pouvait être, comment on dit ça, dupliqué ici, au Togo, ce serait une bonne chose. Mais je sais quand même qu'il y a une réglementation ici qui n'autorise pas un individu étranger à accéder à des terres. Les gens ont contourné la règle, c'est ce que l'homme est en train de dire. Ils se cachent derrière maintenant des sociétés bizarres, bidons, écrans, pour aller acheter des terres.
Et surtout des terres que
nous... Moi, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est-à-dire que les étrangers ont beau tout faire. Vous avez appris en Zambie, toute la Zambie appartient aux Chinois. C'est une façon de parler, mais c'est la réalité. Mais quand le président vient, il décide, avec le Parlement décide de nationaliser tout. Qui va dire quoi? C'est vrai que le danger là-bas, on va vous dire d'indemniser ceux qui avaient acheté tout ça là. Mais il faut déjà anticiper. Il faut anticiper pour arrêter l'hémorragie. Parce que là, eux, ils sont en train de venir à ce que nous on a fait. Mais eux, ils sont formels. C'est un décret que le président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour stopper tout achat de terrain par étranger. Ça veut dire qu'il y a des sociétés même sont dedans. Vous savez comment ça se passe là-bas au Burkina? Actuellement, étranger n'a pas chance. Surtout étranger occidental n'a pas chance comment on dit ça? Je parle bien d'étrangers occidentaux, français, américains, tout ça, là, ils n'ont plus de chance. Surtout européens. Pour dire que le problème, c'est vrai que c'est un problème idéologique, mais aussi c'est un problème congénital, qui est lié à notre essence même. Notre essence, c'est notre terre. On ne peut pas brader ce que nous avons. Regardez comment on a bradé toutes les sociétés, pratiquement. Les banques, au Togo. Maintenant, la terre qui nous appartient aussi, on va brader ça. Non. Que le gouvernement se saisisse de ce dossier-là, si c'est une loi qu'il doit faire pour arrêter, stopper ça, et rappeler tous ceux qui ont acheté des terres à travers les sociétés à l'ordre. Que ce soit un bail. Je crois que ce doit être un bail. Les bails sont autorisés. Les bails de 99 ans, de 50 ans sont autorisés. Mais acheter à travers une société la terre qui appartient aux Togolais, là je dis non. Et c'est là que j'encourage et l'homme à encore fouiller. L'ange a sa mission. Sa mission, il a dit, l'étude d'impact environnemental.
Oui. Moi, c'est social.
Oui, ça là aussi c'est important. Mais ce qui est important, c'est le ministère. D'abord de l'économie des finances, parce que c'est lui qui s'occupe des terres qui appartiennent à l'État. Maintenant, les terres qui appartiennent aux collectivités, ça appartient aux collectivités. Mais il doit avoir une loi, comme il a dit, qui interdise l'achat des terres par les étrangers. Déjà, on crie que nos propres frères et grands frères et soeurs se sont accaparés des terres dans Badbé et jusqu'à Agou. Avec, les gens ont cité 100 hectares, ils ne font rien. Les gens ont cité 1000 hectares, ils ne font rien. Des gens m'ont acheté toute une rivière. Alors que la rivière, c'est un domaine de l'État. Vous comprenez que nous ne sommes pas en sécurité, nous-mêmes. Et donc, s'il oublie, je vais lui rappeler ça. Que chaque fois on vient à Canal FM, qu'on va rappeler ça au gouvernement.
Ok, merci. Oui. Michel, finalement, il faudrait quand même que le gouvernement ou les autorités compétentes fassent quelque chose, puisqu'on ne peut pas assister impuissamment au bradage même d'ailleurs de nos terres ainsi, surtout des terres cultivables.
C'est malheureux, hein. Parce que cette histoire-là, nous en débattons tout le temps ici. Vous savez, les étrangers là, on ne va pas les en vouloir. C'est, tu sais, chez nous, on dit que si le sorcier n'est pas à la maison, je pense que l'autre sorcier ne peut pas vous atteindre facilement. C'est le sorcier de la maison qui vous prend, qui vous vend au sorcier de dehors. Vous savez, les États-Unis n'ont rien fait. C'est des gens haut perché, des gens dont la position sociale est vraiment est bien, qui utilisent ça, malheureusement, contre le Togo, contre les Togolais, pour leurs propres intérêts. En allant s'accoquiner avec les étrangers, pour qu'ils aient ce que normalement ils ne devaient pas avoir. Parce que, et l'homme le disait, je pense que les 30-40 dernières années, je pense que ce que le cadastre a fait, les cadres qui ont géré cette boîte-là, un jour viendra, ils vont rendre compte. Ça, parce que, vous savez, entre-temps, il y a... on avait appris que les réserves administratives là, ceux qui occupaient illégalement, oui, les réserves administratives devaient dégarpir. J'attends, nous attendons impatiemment voir comment ça va être. Toi, tu es sur les réserves administratives, toi, Pascal. Je ne pense pas que toi, tu sais, le problème du Togo, c'est que on ne sait commencer par où. Les gens ont fait des choses vraiment des choses énormes à un moment donné de leur vie. On ne sait pas comment commencer pour régler le problème. Parce que la loi dit que les étrangers n'ont pas accès à des terres. La loi est là. Mais comme ils l'ont dit déjà, on contourne le problème autrement, on crée des sociétés, parfois on se débrouille, on marie une Togolaise, et bon, à partir de l'affiliation, on achète à son nom. Vous voyez, un État qui ouvre largement les yeux ne peut pas accepter tout cela. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas faire la chasse aux étrangers, parce que ils font partie aussi de ceux qui, quand même, contribuent à notre économie, on ne peut pas. Mais il y a des règles, il y a des lois, que ceux qui sont ici, ils ne sont pas Togolais, ils doivent obéir. Si ils ne le font pas, c'est des Togolais eux-mêmes qui les aident à le faire pour des intérêts mesquins. C'est ça, par rapport aux impacts environnementaux, je n'ai pas mené, je ne peux pas me prononcer, mais ce que je sais, Et qui est récurrent, c'est le bradage des terres. Et des terres fertiles. Des terres fertiles.
Arables.
Encore que au Togo, ici, vous savez, entre nous, normalement, la loi dit que vous ne devez pas acheter au-delà d'un certain nombre d'hectares ou je ne sais pas quoi. Mais les gens ont acheté tout un village. Personne n'a rien à dire. Parce qu'ils ont l'argent. Non. Non, ce que l'argent, on est bloqué par la loi. Mais si, on pense qu'avec l'argent, on peut tout faire. Mais désolé, parce qu'un jour viendra. Un jour viendra. Ça là, ça va faire l'effet de bombe. Un jour, je dis bien, un jour.
D'accord.
Parce que on ne peut pas continuer comme ça. Il faut, à un moment donné, il faut regarder ceux qui ont géré Katas depuis 30-40 ans. Je le dis, hein. Parce qu'une fois, le ministre de l'ancien ministre de l'Habitat était ici. Et il n'a même pas pu répondre. J'ai dit, mais le problème au Togo, on n'a pas de. C'est les gens, les cadres même du cadastre, qui ont créé des problèmes pendant de longues années.
À quoi faisant, Michel?
Non. Les gens sont sur des terres. Après, on vient, on dit que c'est réserve de dégager. Là où c'est réserve, on transforme tout ça en. Ils s'en vont, ils s'entendent avec les collectivités. Quand on a retrocédé, ils vont, ils prennent tout. Ils se partagent comme des cow-boys. C'est fini. Oui. Comment on peut évoluer dans un pays comme ça? C'est pas normal.
D'accord.
Ok, ça. Okay. Mais c'est pourquoi quand on a osé dire que les gens n'ont qu'à dire. Je dis, on attend de voir comment. Parce que on sait, le Togo, heureusement, c'est un petit rectangle. On se connaît. On sait comment les gens font.
D'accord.
Ça fonctionne. Justement. On va voir là où on va dégager les gens que réserve là.
D'accord.
Qu'on va voir.
Ok.
Puis il y a des réserves où les gens sont là. On les voit chaque matin.
Tout à fait. Le moratoire, c'est un an. On attend.
Vous savez, à chaque fois qu'on vient ici, j'ai l'habitude de dire que l'État doit veiller à l'application des lois qu'il prend. Vous ne pouvez pas.
Est-ce que c'est ce qui fait l'État du droit?
Oui. Vous ne pouvez pas nous dire, vous sortez une loi. On nous mobilise. On dit, aujourd'hui, pour pouvoir louer une chambre, c'est 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Mais depuis longtemps, moi je dis ça ici chaque jeudi. Personne ne respecte ça et tout le monde se tait quoi. Mais que vaut maintenant la loi dans une république? Que vaut la loi? Mais autant ne pas nous fatiguer avec ça. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent plutôt. Mais l'État dit, voici la loi, 3 mois de loi, 3 mois de caution. Qui applique ça? Et Pascal, dis-moi, qui applique ça dans ce pays? Qui? Personne.
En tout cas, moi j'applique ça.
Personne. Ça dit, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais on dit, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre à nos compatriotes de pouvoir avoir au moins, voilà, un chez décent et pouvoir quand même ne pas exagérer en disant un an de loyer, un an de caution, deux ans de caution. Voilà. Mais aujourd'hui, mais les gens demandent 2 ans de caution. La loi est là, hein. Si vous voulez, le propriétaire vous dit que, mais allez dire à l'État de construire votre chambre. Ne venez pas me déranger.
Oh, la loi
est là. Mais la loi est là. C'est le problème du pays, ça. La loi, nous avons des lois, nous avons des règlements. Personne ne les respecte. Mais comment ça? Mais pourquoi? Maintenant, pourquoi on fait encore d'autres lois? On m'a demandé un jour à l'Assemblée nationale, pourquoi encore vous nous fatiguez avec des lois?
La loi qui les
Parce que on ne respecte pas, personne ne respecte. Vous faites les choses pour nous arranger. Vous faites les choses pour avoir des normes. Vous votez des lois pour que nous puissions avoir l'état de droit. Mais les gens ne respectent rien et ça ne dit rien à personne.
D'accord.
Aujourd'hui même, vous êtes dans les quartiers, je vais vous dire quelque chose, dans les quartiers, le voisin qui est à côté là, il est peut-être en train de vendre un demi-lot de terrain, un quart de lot, il préfère vendre à l'étranger, hein. Alors que vous êtes là, vous êtes peut-être intéressé, il préfère vendre à un étranger plutôt qu'à son frère compatriote. Mais malgré que la loi dit qu'on ne doit pas vendre la terre aux étrangers, lui il va vendre aux étrangers. Un quart de lot, ça se passe dans tous les quartiers maintenant. Il refuse de vendre à son frère et il va donner ça à un étranger. Tranquillement. Parce qu'il s'en fout de la loi. Personne ne viendra l'arrêter. C'est tout le problème, ça.
D'accord, ok. Alors, on va quitter le sujet. Oui, Ambrose, on s'intéresse à ce sujet. Vous êtes revenu sur l'adéquation des personnalités. C'était tout récemment, bien sûr, dans le cadre alors des 20 ans de disparition de l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Vous écrivez « Décoration de personnalité. Madame Sina Lawson mérite-t-elle vraiment sa distinction ?» C'est une question que vous posez.
Oui, cette question, il appartient aux Togolais de répondre. Moi, j'ai ma réponse, que j'ai dit tout à l'heure. Mais il appartient le plus largement possible aux Togolais de répondre. Certains en grande majorité sur les réseaux sociaux, ont déjà répondu. J'en sais que tu en as déjà lu. Et Madame Sinanosson est là dans le gouvernement. Ça fera pratiquement 15 ans, hein, qu'elle est là au gouvernement. Elle dirige un département ministériel qui est hautement sensible.
Et l'économie numérique.
L'économie numérique, t'as tout ce qui est de la communication et tout ça. Et
la télécommunication.
Et c'est elle qui est là. Et elle est là. Elle est là. Et on souffre. Une Togolaise qui gère une femme, de surcroît. Parce que je respecte les femmes. Je me dis que quand les femmes se trouvent quelque part, ça doit aller pour le mieux. Mais elle, autre, c'est le contraire. Elle est là, je n'ai rien contre elle, je ne l'ai jamais rencontrée face à face. Elle est là, et tout le monde crie. Togocom ou Togocel, ou comment vous voulez l'appeler, est l'une des sociétés qui génère des milliards de bénéfices chaque année. Ça, personne ne peut dire le contraire. Et je rends hommage à ce... c'est monsieur Atia Diafo,
non? Atia Diafo, oui, le gouverneur.
Je l'ai jamais rencontré, mais je me dis qu'il a fait un bon travail là-bas parce que c'est une société, c'est l'une des rares sociétés qui faisait la joie aux Togolais. Et la communication était facile en termes d'achat de crédit, d'achat de connexion pour nous en cette période-là. Maintenant, elle est là, mais on a coercé l'addition. C'est-à-dire que, d'abord, on nous a dit qu'on va privatiser une société qui génère des milliers en termes de bénéfices. Je n'ai jamais vu nulle part. C'est une société qui tombe, qui veut déposer, qui dépose les bilans, qu'on privatise, qu'on lègue ou qu'on cède à une autre société ou à une autre entité. Ici, Togocel n'a aucun problème. On l'a vendu, c'est-à-dire on l'a privatisé. Elle est toujours ministre là-bas. Ce qui suppose que c'est elle qui est derrière peut-être la privatisation. Ça, c'est le premier point. De deux, nous, ce qui nous préoccupe, c'est nos crédits de communication. Vous faites une communication de 5 secondes. C'est-à-dire, pour au Bénin, 30 secondes, vous allez communiquer, vous payez un frais. Peut-être 5 francs, quelque chose comme ça. Au Togo, c'est 5 secondes. Au Ghana, c'est la même chose. Au Sénégal, au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'elle nous fait souffrir, elle nous fait vivre la misère du monde. Maintenant, on vient nous dire que celle-là, on va la décorer. Regarde le Wi-Fi. Le Wi-Fi maison est à combien? Le Wi-Fi maison est à 15 000. C'est-à-dire qu'on nous amène jusqu'au coût. Le Wi-Fi maison, pas le Wi-Fi pour vendre. C'est à 15 000, au lieu que ce soit peut-être à 5 000 francs. La dame, quand on la convoque à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur ce genre de questions, les autres répondent, mais elle n'y va pas. Elle ne respecte même pas personne. Elle, comment on dit ça, elle est indifférente à l'appel de l'Assemblée, alors que c'est ceux qui sont à l'Assemblée qui sont censés la convoquer parce que c'est la prérogative de l'Assemblée de convoquer les membres du gouvernement pour avoir des explications sur certains sujets. Elle ne fait pas. C'est elle qu'on dit. À qui on décerne des distinctions, je dis on tombe de nu. Par le passé, il y a des
marques. Vous pensez qu'elle ne mérite pas?
Non, elle ne mérite pas. Les distinctions sont faites à ceux qui ont posé un acte élogieux, un acte qui entre dans l'intérêt général. Un acte qui prouve que le Togo s'est développé, a avancé. Un acte héroïque auquel on peut rattacher la personne, c'est ceux-là qui méritent. Les militaires, par exemple, qui sont tombés au nord, dans cette histoire de terrorisme. Mais ils n'ont pas choisi de tomber. Ils n'ont pas choisi de mourir. Ils sont allés défendre le territoire. Ils sont allés nous défendre. Si c'est eux qu'on décore à titre posthume, qu'on l'a fait, moi j'applaudis ça. Même Barké, qu'on a décoré, c'est le grand chancelier, c'est lui qui doit faire le casting, en principe, pour qu'on sache qui doit décorer ou qui on doit décorer ou pas. Mais Barké a été décoré. Tout simplement, moi je n'étais même pas encore né. Barké était déjà ministre. Et il est toujours là, conseil du président, à rang de ministre. Son cas ne menait pas parce qu'il a eu à faire certaines choses. Même si ça n'arrange pas le pays, je sais qu'il a là, il a fait quelque chose. D'accord. Mais Sinanosson, contre qui je n'ai rien contre elle. Elle ne mérite pas. C'est-à-dire, quand tu vois même le visage, tu comprends que ce n'est pas évident que tu approches cette dame-là.
Non, mais est-ce que c'est une question de
visage? Non, laisse-moi terminer. Pour te dire qu'en réalité, elle ne mérite pas. Les distinctions,
d'accord, c'est compris,
pour la République ne sont pas faites pour les amis, pour les copains ni les copines. C'est pour faire pour ceux-là qui ont fait un travail de développement, un travail qui sauve le Togo.
D'accord, ça. Merci. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une autre personnalité qui a reçu, bien sûr, la distinction. Et vous êtes revenu également sur, Michel, vous êtes revenu sur cette personnalité aussi ce matin. Vous écrivez, 20 ans après la disparition du père de la nation, la reconnaissance de la République à Hubertine Badagnaki Nyasingbe. Et j'ai peut-être envie de poser la question que Ambroise a posée à la une alors de son journal, en remplaçant les personnalités. vraiment, est-ce qu'elle elle mérite vraiment cette distinction?
Non, elle mérite, cette dame mérite, parce que vous savez, 20 ans après la disparition de son cher époux, cette dame, c'est vrai, elle est silencieuse, mais elle est très efficace, même au temps où son mari était là. C'est quelqu'un qu'on voyait de temps en temps aux côtés du président, de l'ancien président, comme la première dame. Mais elle ne faisait pas du bruit. C'était quelqu'un qui vraiment était derrière, qui derrière son mari, qui jouait le rôle de maman.
Et la première dame.
Oui, de la première dame. Elle est discrète. Et 20 ans après, vous avez vu aussi qu'elle ne se mêle de rien. Elle est silencieuse, elle est discrète. Et beaucoup de Togolais vraiment étaient agréablement surpris quand même qu'on puisse permettre qu'il y ait des projecteurs sur elle la dernière fois, parce que au moins il fallait que l'État reconnaisse en cette dame quelque chose de bien, parce qu'elle a contribué. D'abord, on dit, nous les hommes, quand on a en tout cas on a cette posture de servir ou de travailler dans de bonnes conditions, c'est que derrière nous, il y a quand même une femme. Et cette dame-là, je pense que l'heure est venue, l'heure était venue, pour que le chef de l'État la sorte de là-haut. Elle est pour vraiment faire en sorte que la République reconnaisse en elle une dame qui a contribué d'une manière ou
d'accord
à l'avancement de ce pays.
D'accord, okay.
Donc, c'est pourquoi nous avons voulu faire un zoom sur cette dame.
Et vous mettez même sa photo à la une alors du journal, oui. Bien sûr, en grand format, bien sûr.
Oui, mais je ne vais pas laisser aussi, je ne vais pas me taire par rapport à ce que disait Ambroise. Vous savez, c'est vrai, ce qu'Ambroise dit, il y a de cela quelques années, Pascal, tu étais ici aussi. On se posait beaucoup de questions par rapport aux décorations, surtout lors du 27 avril. Mais il y a des gens qu'on décorait et on se posait beaucoup de questions. Mais qui dit qu'on n'a qu'à décorer tel? C'est-à-dire, quels sont ceux qui... C'est un comité ou bien c'est qui? Parce qu'il y a des gens, vraiment, on ne comprenait pas. Mais il y a deux, trois ans, et l'homme, si vous regardez bien, je pense que ça a été stoppé.
Oui, ça a été stoppé.
Je pense que nos commentaires ont quand même permis de... peut-être ont contribué à peut-être chercher à voir mieux dans ça.
Par rapport à l'ordre dans les choses.
Oui, mais par rapport à Sina Lanson, bon, c'est vrai ce que Ambroise dit d'elle, par rapport à ses interpellations, tout bon. C'est une dame, c'est une Togolaise, mais je pense que les Togolais, beaucoup de Togolais la voient très loin. C'est quelqu'un qui est très loin. Et chaque fois qu'on évoque son nom, il y a des gens qui... J'étais quelque part où on a appelé, quelqu'un a appelé son nom, les gens ne sont pas... Les gens étaient irrités. Mais 15 ans, comme il le dit, si elle a fait 15 ans dans un ministère, quand même, ce n'est pas rien. Elle a, au-delà, si on peut l'aimer ou pas, mais on peut dire qu'elle a quand même contribué à quelque chose. Et si l'État est reconnaissant à son égard, moi, je ne m'offusque pas. Je trouve que le temps qu'elle a passé, oui. Au moins... Elle a fait quelque chose qu'il fallait quand même reconnaître. Voilà.
Ok, mais l'homme, c'est vrai que seul le chef de l'État avec son pouvoir discrétionnel et connaît les critères sur lesquels quand même la décoration de ses personnalités a été faite. Mais finalement, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui sur les plateformes, dans l'opinion, où on se dit, mais est-ce que telle personne mérite? Est-ce que telle autre mérite? Est-ce que c'est pas seul le chef de l'État qui nous donnera la réponse?
Non, pas forcément. Vous savez, nous-mêmes, on suit ces personnalités de près. On peut savoir exactement à quoi ils ont contribué, ce qu'elles ont pu faire justement par rapport à l'amélioration de leur portefeuille, des actions qui ont été faites. Mais tout le monde regarde. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a des actions qui n'ont pas peut-être faire l'objet d'une communication en tant que telle, mais comme Michel l'a dit il y a cela quelques années, oui, il y avait des chances qu'on découvrait, qu'on ne comprenait pas. Ça dit, bon, si tu cherches même ce que la personne a fait, tu comprends pas. Mais je crois qu'à un moment donné, ça s'est normalisé. Et que, bon, les décorations maintenant, d'abord, elles sont rares. Et si vous regardez bien, elles sont rares. Et quand il y a quand même moins de décorés, ceux qu'on décore, ils sont quand même très peu. Donc, pour ça, oui. on peut véritablement s'en féliciter parce que c'est la presse qui a commencé à tirer la sonnette d'alarme pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi on a décoré X ou Y, moi, je n'ai pas la réponse, vous comprenez. Mais on suit quand même ces personnalités. On a vu quand même ce qu'ils ont pu faire à la tête de leurs différents départements ou de leurs structures. On a quand même regardé un peu, et c'est pas peut-être le lieu de se pencher sur une personnalité plutôt qu'une autre. Ça, c'est mon avis. Ambroise aussi a son avis. Michel a son avis là-dessus.
Oui, c'est absolu.
Donc, voilà.
Moi, je voulais.
Non, Ambroise,
juste, comme Michel est rentré dans mon Sinalosson, moi, si je vais intervenir.
Elle devient votre Sinalosson.
Madame Badenaki. Bah, j'ai plusieurs questions ici. Les gens demandent, elle a fait quoi pour mériter ce titre? Bon, Michel a expliqué ce pourquoi. Moi, je n'ai rien contre. Mais je me dis que c'est des distinctions républicaines qui sont décernées à des gens qui ont fait une action, qui ont créé une émulation dans le pays. Et donc, au moins, ça fait quatre personnes qui m'envoient les mêmes messages.
D'accord, ok.
Et je me dis que ceux qui ont fait la décoration ont leur objectif. Et moi, le premier titre que j'avais écrit, j'avais même dit que la distinction sont même déjà banalisées et dévalorisées. Donc, je ne voudrais plus
rentrer. Ok, on va quitter. Oui, on va quitter. Je reste avec toi, mais on quitte le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. C'est vrai que le débat sur le père de la nation, le père de l'indépendance a été mené entre-temps. Et vous êtes revenu alors sur ce débat et vous écrivez à la une de votre journal, bien sûr, à qui revient le titre de père de la nation, historien, juriste et scientifique, honte à vous. C'est ce que vous écrivez d'abord avec la photo de des anciens présidents Sylvanus Olympio et le général Yadema, Gnassingbé Yadema en haut. Et en bas, vous avez, il y a des photos des professeurs tels que professeur Gaïbo et également professeur Tibé et professeur Batsana. Alors, qu'est-ce qui se passe, Ambroise?
En fait, ce ne sont pas des gens forcément qui sont accusés et qui ont leur photo. Je peux avoir au moins une vingtaine de photos. Mais je laisse simplement illustrer parce que quand on parle de scientifiques juristes, ici, la question concerne plus, c'est vrai, ces gens-là aussi, mais des spécialistes. Et les spécialistes de cette question, c'est les historiens. Ceux qui sont là-bas, c'est eux qui inondent les médias. On leur tend le micro souvent sur des questions d'intérêt national. Et le premier, Batana, il est partout, hein, il est dans tout. Et il défend ce qu'il a à défendre. Et le second aussi, on l'écoute souvent, soit à la TVT. Je ne sais pas s'il a été invité, même s'il n'a pas été invité. C'est des questions sur lesquelles le Togolais veut qu'on entende des spécialistes trancher. Parce que c'est une question qui a fait tellement de débats, que ce soit au niveau des radios, que ce soit sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines. Et ce débat n'est pas prêt à finir d'ici l'année prochaine. Et donc ceux-là qui pensent que c'est un débat qui est passé, c'est faux. Parce que la question de Sylvanus Olympio est une question d'intérêt national. Et certains aussi pensent que la question de Yadema est une question d'intérêt national, l'objet du tiraillement. Quelqu'un m'a écrit ce matin, après le il me dit que, qui veut encore tirailler sur ça? On sait qui est le père de la nation du Togo. C'est écrit sur le monument de l'indépendance. Et donc, nous on a cité ces historiens-là, parce que, vous vous rappelez cette histoire de la rétroactivité de la loi, de la loi constitutionnelle dans les années, il y a une dizaine d'années.
Oui.
Il y avait des juristes qui avaient pris le courage à leurs deux mains, dans leurs deux mains, pour réagir, même s'ils sont du côté du pouvoir. On entend souvent les spécialistes de l'université, les universitaires, sur des questions d'intérêt national. Vous ne les verrez jamais intervenir. Ceux qui ont souvent le courage d'agir, on les connaît. Le professeur Gaïbo, c'est un éminent professeur en matière d'histoire, mais on n'a jamais écouté. Moi, je ne lui reproche rien. Tout simplement, c'est son silence aussi qui peut devenir coupable. Parce que tu es spécialiste. Tu dois réagir. Et M. Tibé, que certains estiment qu'il est objectif, je ne le conteste pas. Mais il faut qu'il y ait une position quand même tranchée sur la question pour situer l'opinion. Batchana a sa position que tout le monde connaît. Et donc,
lors du colloque scientifique qui a été animé, bien sûr, cette position.
Et nous, on se dit que voilà. Tant que les gens craindrait de ne pas pouvoir donner une solution du côté du pouvoir pour être lynché sur les médias par l'opinion publique ou la population, ou tant que les gens craindraient de prendre la position du côté de la population qui dit non, le père de la nation c'est Sylvanus Olympio,
pour tomber dans les escarcelles du pouvoir et perdre son emploi peut-être, ou être mal vu et perdre son père. C'est ce qui fait résigner les Togolais. C'est ce que nous avons essayé d'analyser pour dire que peut-être ils ont tort, peut-être ils n'ont pas tort, mais à un moment donné, dans tout pays, notamment en France, au Bénin, les gens pleins de pollution, et ils le disent clairement, la Bible dit, soit tu es froid ou tu es chaud. Tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud. Et c'est pourquoi je n'aime pas les centristes. Les centristes, c'est ceux qui trahissent, c'est les descendants de Jula.
D'accord, ok. Oui, mais et Michel, est-ce que la question que Ambroise évoque n'est pas aussi une question fondamentale, en ce sens que quand on prend une classe d'élite dans un pays, c'est en quelque sorte le baromètre de la société, et quand il y a des questions sur lesquelles on doit trancher, quand il arrive que cette classe d'élite alors parle, ça veut dire que c'est le bon sens et c'est ce qu'on doit suivre.
Bon, je ne sais pas. L'élite... Quand vous parlez de l'élite, ici, quand nous prenons les historiens, je pense qu'ils ont leur avis sur la question. Et par rapport à cette question, au cours de colloques, je ne sais pas si vous étiez là ou pas, le professeur Batiana a été clair. Il a dit que le père de la nation, qu'on a le titre là qu'on a attribué à Nyasingbe Yadema, c'est une commission que l'État a mise en place entre-temps, qui a travaillé pour voir quelles sont les personnalités qui ont marqué l'histoire politique, l'histoire philosophique du pays, pour qu'on puisse les attribuer des titres. Et c'est suite au résultat donné par cette commission, et cette commission qui a attribué le père de l'indépendance à Sylvanus Olympio, et le père de la nation au feu président Yadema. Donc, c'est des gens, c'est une commission de haut niveau qui ont travaillé pendant des semaines. Et le rapport est là, et sur cette base, ce n'est pas quelqu'un qui a accueilli ou bien quelqu'un qui a mangé, il est rassasié. Un matin, il a commencé à appeler Yadema père de la nation. C'est sur une base scientifique qu'on l'a donné. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord, je pense que pour vous, que si vous êtes Togolais, vous ne serez pas surpris. Parce que le contentieux qui est là et qui dure, et qui divise peut-être une classe politique, peut-être c'est le prolongement. Sinon, s'il faut vraiment être objectif, c'est que ce soit ici comme en France, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État français a mis une commission pour trancher sur sur un sujet donné. Ça se fait partout. Et quand les résultats sortent, je pense qu'il reste, il revient au citoyen de se plier. Voilà. Maintenant, si les gens sont toujours là, dans leur rengaine, bon, moi, je ne me verse pas dans ça, quand même.
C'est vrai, je posais la question à Michel tout de suite concernant le fait que quand on parle de la classe d'élite, hein, dans une société ou dans une communauté, ça constitue alors le baromètre alors du bon sens. C'est parce que, déjà, de par le passé, on a vu quand même la position des uns et des autres. Et sur des questions, peut-être, quand on prend le changement de constitution, on a vu la manière dont chacun avait des points de vue divergents sur le sujet. Finalement, on se demandait, mais notre classe d'élite qui devait quand même nous situer, finalement, est divisée.
Oh, est-ce qu'on a encore une élite? C'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, sur les vrais débats, sur les grands débats, les débats sur des sujets de l'heure, personne ne veut parler. Même à l'université, vous trouvez ça curieux. Mais sur des débats, par exemple, si on vote le budget de l'État, à part ce qu'on écoute, quand vous sollicitez un économiste sur les grandes orientations budgétaires comparativement à l'année passée, ils disent qu'ils ne parlent pas. L'élite est où? On n'a plus d'élite. Je suis désolé. Mais s'il y a de grands sujets de l'heure, on cherche des personnalités, des gens. Mais c'est quand vous voulez l'élite, vous les trouvez à l'université, vous les trouvez au niveau de l'église, vous les trouvez, mais personne ne parle. Tout le monde se tait. Mais on va chercher l'élite comment? L'élite a démissionné. On va aller chercher comment?
Est-ce que la politique n'est pas passée par là?
Oui, on peut le dire. On peut le dire, mais même au sein de la classe politique, opposition comme parti au pouvoir, il y a des sujets où les gens ne veulent pas parler, dont les gens ne veulent pas parler. Vous avez des sujets, par exemple, il y a plein de sujets, mais les gens sont à faune. Ça, on ne comprend pas ça dans le pays. On a l'impression que c'est la caractéristique principale du Togolais. Les gens souffrent, mais ils se taisent. Vous savez, dans des sociétés, les gens sont, ils sont là, ils veulent, ils souffrent, ils sont bons, ils ont quand même beaucoup de difficultés. Il y a des choses qui vont pas bien, mais ils se taisent. Ils se taisent. Ils se taisent, ils veulent rien dire. C'est pour ça que quand, des fois, on est entre confrères et puis on marche et puis que des gens sortent quelque part et disent que bon, vous les journalistes, là, il y a des sujets, vous ne vous prononcez pas dessus, tout le temps c'est la politique. Mais les journalistes ne sont pas des charlatans, je suis désolé, on n'est pas des mages. Mais si vous vivez des situations chez vous et que vous refusez d'en parler, nous on va inventer ça dans votre tête, on va venir vous fendre pour vous sortir ça de votre tête. Je suis désolé.
D'accord.
Il faut quand même parler. Mais il y a des situations que vous vivez, dénoncez-les, parlez-en, pour que les gens sachent que oui, c'est ce que vous vivez. Mais vous savez pas, quand vous êtes dans vos bureaux, on ne va pas venir fendre vos têtes pour savoir ce qui se passe. Je suis désolé.
D'accord, merci.
Donc, on ne travaille qu'avec les informations que nous avons. Donc, si vous n'avez pas la chance de pouvoir lancer des alertes, pour que les gens puissent en savoir davantage, mais vous allez souffrir dans votre coin. C'est
d'accord,
ça.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat. Et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Oui, bonjour Basile. Comment vous allez?
Oui, très bien.
Dieu merci. Allez-y.
Salut le confrère en studio.
Oui.
Bon, il y a eu trop de polémiques entre vous là-bas. Quelqu'un n'a qu'à avoir le courage de me dire que si le président actuel n'est pas président, est-ce qu'on va fêter 20 ans de l'ex-président? Quelqu'un n'a qu'à avoir ce courage. J'ai quoi pour preuve? On nomme quelqu'un père de l'indépendance, on nomme l'autre père de la nation. Des deux titres, lequel qui est le plus important? La nature même a bien fait que père de l'indépendance a eu la date de son décès avant le père de la nation. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce père de l'indépendance? Donc moi j'ai conclu en disant que c'est une bonne chose. Tu as mis ton enfant au monde qui est devenu quelqu'un et te célèbre. Ça s'arrête là-bas, ça n'a rien à voir avec le peuple togolais. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Mais si les gens ne comprennent pas, et on continue pas à faire polémique, pourquoi on a commémoré, pourquoi on a commémoré. Ils sont au moins 3, 4, 5 présidents qui sont morts. On a commémoré qui? Est-ce que ça là, c'est compliqué? On ne peut pas chercher de midi à 14. C'est de ça, moi, nous on parle. Le Togo, ce n'est pas question de paix d'indépendance, au père de la nation. Qu'est-ce que nous, Togolais, on va manger par jour? Si c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui,
d'accord.
On n'arrive pas à avoir un repas par jour.
D'accord, merci.
Est-ce que c'est père de l'indépendance et père de la nation qui va nous régler ce problème?
D'accord, merci beaucoup, Basile. Puisqu'il y a beaucoup de gens, c'est également en ligne. Merci pour votre intervention. Bonjour, mes très chers journalistes. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour tous les jours pour nous, Togolais et Togolais. Que Dieu vous garde et bonne fête alors de la radio à vous. C'est juste alors une petite question. Cette dame, Sina Lawson, en se rendant à Paris pour l'IA, combien de start-up togolais prometteur fait partie de la délégation, s'il vous plaît. Et c'est une question de Maglebé qui nous suit depuis la Belgique. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est votre nom, c'est Sylvain. Oui, c'est Sylvain.
Oui.
Oui, Sylvain, allez-y. Et
je salue tous les confrères qui sont au studio. Bon, franchement, et ça frustre. Si après 60 ans d'indépendance, énergiquement on ne peut pas être indépendant, là il y a un problème. Avec une superficie de 5 km carrés, non, ça frustre. Avec cette chaleur-là, il faut qu'on dorme dans l'obscurité. Et il y a même, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une coupure disproportionnée. Il n'y a pas de plan de coupure. Jusqu'à ce que un contact dans une église a pris feu hier. Je ne dis pas que c'est cette coupure disproportionnée qui a fait que le contact a pris feu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? Et puis c'est dans une église, ce contact a pris feu hier soir. C'est pas du tout. Ça frise, je vous dis que ça frise. Quand vous attendez que on n'a pas d'énergie, on n'a pas de courant durant toute une nuit. Franchement, on est dépassé. Il faut que les autorités prennent la chose dans le corps, surtout l'énergie. On ne dépasse que dans la sécurité, je sais. Nous devons vivre aussi dans la sécurité avec ces bandits de grand chemin là. Mais l'énergie, franchement.
D'accord, merci Sylvain pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, les étrangers achètent nos terres. La minorité qui s'accapare des biens de l'État aussi. Vous allez rentrer dans les fermes, non plus des terres pitables. Et beaucoup de jeunes vont au Nigeria pour cultiver, pour s'acheter des mouchots et autres. Il n'y a même pas de terre qui. Et je réfléchissais en ce temps, il disait que d'ici peu, le Togolais va devenir esclave, surtout l'autochtone. Vous voyez déjà, même à Lomé ici, l'accaparement des terres. La famille veut vendre, par exemple, parce qu'il y a conflit. Il est vendu le terrain à 100 millions. Dites-moi, vous qui êtes sur le plateau là-bas, vous pouvez acheter ça? Qui peut acheter ça? Personne. C'est l'étranger qui peut l'acheter. Et peut-être la minorité qui s'accapare devient de l'État. Mais il y a une fluvio. En Kabyan, Yoma, je pense que Yoma, au Togo ici, on serait soumis à la minorité qui s'accapare devient de l'État. Et aux étrangers, vous allez voir même avec INAM, beaucoup de pharmacies, j'ai su que la dernière fois, ne veulent plus prendre INAM. Ils vont donner des explications. Invitez les pharmacies pour nous donner des explications pourquoi ils ne veulent plus prendre INAM. Sur deux qui prenaient INAM, 100% de personnes n'ont pas pris. Dans mon quartier. Oui. Et quand on amène à Mur, c'est le paracétamol et autres là, il y a des produits que l'ami ne prend pas en charge. Mais on a quelle sécurité? Vraiment, on est des esclaves.
D'accord. Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Merci infiniment pour vos efforts que vous faites chaque jour pour affaires de décoration. Et qu'est-ce qui vous étonne? C'est ainsi que ça fonctionne. Et le Togo, tant que le parti unique, là, sera à la manette, la faim et tous les cris des Togolais ne leur disent rien. Courage à nous, les Togolais, et que la Providence règne. C'est Prénom qui a signé ce message. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame Messi.
Oui, bonjour. On nous a dit qu'on n'a rien à faire. Les gens cumulent, la Wanana aussi cumule. Se taire ne nous dit rien jusqu'à ce qu'on soit dans cet état.
Et madame Messi, vous
avez énuméré là.
Oui.
Oui, mais ben, c'est pas trop suivi. Hein. Bon, voilà quoi.
Et monsieur, serait très tout important là, quand même que vous suiviez.
Vous avez fait le droit, non? Vous là-bas, là, vous tous, vous avez fait le droit. Et quand le gouvernement vous fatigue tant, là, fatigue une république, un truc comme ça, on se porte partie civile, on porte plainte pour le déposer, c'est tout. Hein? Et c'est comme ça que ça se passe, hein? Vous êtes là, on se fatigue.
Allô, madame, ici.
Les gens n'ont pas le droit de faire tant de mandats, des mandats non limites, et dès qu'il y a 5 ans, on entre en France.
Allô, madame Essie. Allô, madame Essie.
Oui.
Oui, mais nous avons parlé de beaucoup de sujets au cours de l'émission. Si vous n'avez pas suivi, là, je serai obligé. Vous serez obligé de vous couper. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est
Benoît Dagoué.
Ah, Benoît, allez-y.
Oui, en ce qui concerne les terres que les étrangers nous achètent, je pense que c'est moi qui écoute à la CBT, le président de la République veut faire du Togo un pays de quoi, j'oublie, un pari, mais ils oublient nous, la population, notre vie, notre domaine. Je ne sais pas si nous sommes des Israéliens ou bien des Palestiniens. Comment peut prendre un Israélien ou un 30 l'autre pays là, 30 ou 40 Palestiniens. Aujourd'hui, pour l'État de construire un tricycle du sable, c'est 9 000 et demi. Il n'y a pas le transport. Ça dépend du lieu. L'État ne met pas sa main dans les choses, mais il va dire que si je dis au ministre qui s'occupe de la construction, ou bien qui dit que ça va 6 mois, combien il faut pour construire une pièce avant de faire des lois? Il faut étudier les lieux géographiques. Quand vous parlez du père de l'indépendance, du père de la nation, c'est bien. Le souverainisme, c'est lui qui a fait 5 ans. Dans ces 5 ans, il y a l'indépendance, il y a tout. Mais il y a des morts, 38 ans. Il est venu unir. C'est pourquoi les gens chantent l'immédiat, il y a des morts. C'est pour nous, les gens qui sont du sud, là, les souverainistes, les gens qui ont suivi avant le coup d'État, les gens chantent. C'est pour la division. C'est ça que les opposants blancs qui sont revenus en 90 et disent que non, ils ne veulent pas le général Yadema. C'est ça qui nous a amené aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup Benoît et pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Bonjour Canal FM, mais si M. Fogg Niasingbe fait tout pour devenir père de l'alternance dans notre histoire, c'est pas mieux, c'est Kofi de Zangira qui écrit cela et sa réaction 90-86-35-35. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Arma.
C'est Arma, oui.
J'espère que vous allez bien.
Oui, j'ai suivi vraiment avec attention votre émission. Mais moi, je me dis quelque part que, comme l'a dit un de vos confrères là-bas, il est important que l'autorité puisse faire un suivi sur les lois qu'on adopte au Parlement. Parce que à quoi cela sert d'adopter des lois qu'on n'applique pas? C'est vraiment dommage. Parce que comme il a dit aussi, concernant les lois sur les locations et autres, et il y a d'autres lois aussi. Bon, sur la route, là, quand est-ce que les grands, c'est-à-dire l'heure de circulation des grands camions et autres, bon, il y a beaucoup de lois comme ça qui ne sont pas suivies. Il va falloir que l'autorité, bon, je ne sais pas qui peut le faire, mais l'autorité doit quand même se mettre à l'œuvre pour mieux regarder pour le bonheur des populations. Merci.
Merci beaucoup Armand. Et Armand, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce jeudi 13 février 2025. C'est confrère, nous revenons en plateau pour un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Et Michel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Non, je trouve que, comme d'habitude, chacun a pu dire ce qu'il pense. C'est vrai, nous sommes ici, nous commentons l'actualité, nous ne détenons pas le savoir. Et les auditeurs qui nous suivent, que ce soit dans leur bureau, dans leur domicile ou peut-être à l'extérieur de ce pays, ils ont leur opinion, ils ont leur manière aussi de voir, de commenter l'actualité, ils le font. Et à chaque fois, nous trouvons que c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas obligés de voir les choses de la même manière, mais ce qui est intéressant, c'est que de la contradiction, quand même, puisse jaillir la lumière. C'est dans la contradiction qu'on fait l'effort de comprendre donc ce que l'autre a envie de dire. Donc nous allons toujours, comme on le fait d'habitude, féliciter nos auditeurs pour leur contribution. Maintenant, par rapport à ce que nous disions concernant le bradage des terres, je pense que ce que nous disons ici, c'est une bouteille jetée à la mer. Nous voyons les choses à notre manière et nous trouvons que parfois ce n'est pas bien. Le dossier donc de notre confrère, l'homme doit interpeller les hautes autorités et regarder de très près, parce qu'il vaut mieux corriger aujourd'hui que de laisser pourrir pour que demain ça devienne une situation qui puisse dégénérer, qui puisse créer des problèmes aux populations que nous sommes. Voilà.
D'accord. Et l'homme?
Remercier tous les auditeurs qui ont pu donner leur avis sur les sujets. Mais il y a peut-être un point qui me titille un peu, pas sur ce que j'ai dit, hein, mais sur la façon de parler. Quand les gens s'appellent et vous disent, vous qui êtes sur le plateau là-bas, là. Franchement, je crois que on peut dire sincèrement juste les journalistes, les confrères. Mais vous qui êtes là-bas, là, dites-moi. C'est, franchement, je crois que le respect mutuel qu'on se doit l'un à l'autre doit quand même nous amener à savoir parler.
Parce et que il faut une courtoisie.
Si on transcrit ça en langue locale, on comprend quoi. Vous qui êtes sur le plateau là-bas, là. Donc, franchement, il y a ces phrases-là qu'il faut quand même éviter de prononcer pour qu'il y ait quand même cette courtoisie. Parce que c'est vrai, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. On n'est pas obligé d'avoir le même avis ou d'avoir le même point de vue sur les questions. Mais je crois que le respect mutuel et la courtoisie doivent toujours caractériser nos réactions.
Merci beaucoup, Elhomme. C'est un point très important. Je pense tout simplement que c'est une émission de grande écoute. Et en tant que tel, quand on appelle dans l'émission, il est très important quand même qu'on utilise plus de courtoisie à l'égard de ceux qui sont là. Et nous-mêmes, nous savons bien le faire également à l'endroit de nos auditeurs. Et oui, il est très important qu'on utilise justement cette courtoisie pour que ce respect mutuel là soit totalement établi. Merci beaucoup, Elhomme. Oui, Ambroise.
Oui, moi, je voudrais revenir sur la CET. Si je parle de la CET, c'est parce que la CET est le courroie qui nous fournit de l'énergie, de l'électricité, les frigos, la radio, la télé. La CET est tout. Et donc, si à ce titre, la CET sait qu'elle est tout, la CET, à travers le ministère des Mines, ou le ministère des Mines à travers la CET, doivent tout faire pour que le courant ne manque pas aux 8 millions de Togolais que nous avons. La preuve, c'est que ce ne sont même pas les 8 millions de Togolais qui ont l'électricité aujourd'hui. Il y a des efforts qui ont été faits les années qui nous précèdent. Mais je me dis que ne serait-ce que ceux qui sont dans la capitale, tout le monde a besoin de l'électricité. Ceux qui sont au village, eux, ils vivaient dans le noir depuis longtemps, avant que l'électricité ne vienne. Mais nous qui sommes concentrés dans le Grand Lomé, où la CET ne peut pas faire l'effort de fournir l'électricité, ne serait-ce que créer, il n'y a pas de barrage, mais avoir un banking énergétique pour pouvoir desservir le Grand Lomé pour qu'on n'en souffre pas. Regardez la rue de Ségbé, il n'y a pas la lumière la nuit.
D'accord, merci.
Il n'y a pas de lumière, oui, mais on coupe aussi.
D'accord, on va revenir là-dessus, hein? Il n'y a pas de souci, merci.
Donc, qui répartisse,
oui, c'est un sujet
qui répartisse le calendrier de fourniture, oui, pour que certains ne soient pas lésés au profit d'autres.
D'accord, c'est un sujet qui vous tient à cœur, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à
tout le monde, parce que l'énergie électrique, on en a besoin et son manque, ça fait toujours défaut. Hein. Et merci Ambroise Kondo d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Merci Michel Yaou Tsadza d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Ouah les Vainqueurs. Merci Elon Matissobé d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci pour votre contribution. Michel Toméga était à la mise en onde, Jérôme Dakouta à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Et je vous promets, demain vendredi, nous aurons un invité spécial pour un invité spécial et politique surtout dans cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.